et à tous et bienvenue pour cette quatrième émission de Un Tour d'Histoire, l'émission du département d'Histoire et d'Archéologie de l'Université de Tours. L'émission de ce soir sera consacrée à la question des protestations sociales et des révoltes urbaines et nous vous proposerons un débat pour tenter de faire un peu une mise en perspective des mouvements sociaux qui, comme vous le savez bien, et peut-être même des acteurs pour certains et certaines d'entre vous, sont en ce moment en cours en France. Donc, il s'agira d'aborder sur le temps long, sans forcément d'ailleurs se restreindre uniquement à l'Europe occidentale, l'histoire de toutes les formes de protestations sociales en contexte urbain, qu'elles prennent la forme d'émeutes, de grèves, d'épisodes plus ou moins violents donnant lieu à débordements et à expression d'une colère populaire. L'idée serait d'essayer, bon, de façon assez modeste dans le temps qui nous est imparti, de réfléchir aux circonstances qui peuvent expliquer la survenue de ces mouvements, aux groupes qui peuvent les mener, qui peuvent y prendre part, à la plasticité aussi de leur forme à travers le temps et les ères de civilisation, et dans un dernier point, essayer aussi de réfléchir un peu à la fois à la façon dont le reste de la société non participante ou participante les conçoit, à la façon dont le pouvoir les réprime et à la façon aussi dont les historiens peuvent les utiliser comme objet d'étude. Pour ce débat et cette discussion, je suis très heureux d'être entouré par Florence Alazard, maîtresse de conférence en histoire moderne au département d'histoire et d'archéologie de l'université, Mona O'Brien Castro, maîtresse de conférence en langue, littérature et civilisation des mondes britanniques dans la même université, Romain Delmas, qui est doctorant en histoire contemporaine au laboratoire CETIS et qui enseigne aussi au département d'histoire et d'archéologie, et pour la troisième fois presque d'affilée, pour diriger ce débat, eh bien, vous me retrouvez, Sylvain Jagnard, maître de conférence en histoire romaine au département d'histoire et d'archéologie. Alors, dans un premier temps, pour vraiment centrer un peu notre débat, notre discussion, et puis peut-être aussi faire un peu un tour d'horizon des différentes formes de révolte que nous souhaitons aborder, serait-il bon finalement de tenter, soyons un peu ambitieux, une sorte de typologie de ces émeutes urbaines? Alors, qu'est-ce qui, Florence, à l'époque moderne, peut avoir provoqué des contestations violentes dans un contexte urbain? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de différentes survenues d'émeutes ou de conflits violents dans un contexte de cité, et donc leur expliquer aussi leur contexte si vous avez quelques exemples à l'esprit?
Oui, alors peut-être très rapidement revenir, puisqu'il est question de faire des typologies, sur un point assez important que vous évoquiez tout à l'heure, avec cette idée d'observer ce qu'était la colère populaire. À l'époque moderne, un des paradoxes quand même qu'il importe de souligner, c'est que certes, les groupes populaires ou subalternes, quelle que soit la manière dont on les désigne, étaient évidemment des acteurs de la contestation. Mais un point qu'il faut absolument noter aussi, c'est que la noblesse, à l'époque moderne, est un groupe contestataire et un groupe qui utilise la contestation, voire l'émeute, pour exprimer sa réprobation. Et en réalité, ce qu'une historienne, Arlette Joanna, a appelé le devoir de révolte, relève bien justement de l'éthos de la noblesse, de son identité. Pourquoi ? Parce que la noblesse est en conflit avec le pouvoir royal en termes justement de domination, et donc elle est un acteur très important déjà de ces contestations. Donc ne pas oublier qu'il y a bien sûr les contestations populaires, mais aussi celles de la noblesse. Alors ensuite, si on regarde du côté populaire, eh bien évidemment, on a un objet beaucoup travaillé pour l'époque moderne, les révoltes antifiscales, sur lesquelles on sera peut-être amené à revenir, bien sûr, mais tout de suite préciser que ces révoltes antifiscales, qui ne sont pas toujours très urbaines, hein, d'ailleurs, qui pour beaucoup sont des révoltes plutôt qu'on va retrouver beaucoup dans les campagnes, sont des révoltes qui ne sont pas contre la fiscalité. C'est un point absolument crucial, évidemment, à retenir. Hein. La taille est adoptée en France au milieu du XVe siècle. Elle est en fait très peu contestée. En revanche, ce qui est contesté, ce sont les modalités de ponction fiscale, le problème des abus, etc. Et puis, on trouve d'autres formes de conflictualité qui me semblent importantes de noter, parce qu'on a pu dire que c'était, qu'elle faisait partie des premières, mais j'imagine qu'on va s'apercevoir que, qu'elles avaient des précédents. Ce sont des conflits liés au travail. Et je pense en particulier à ce qu'on a appelé le Grand Tric à Lyon, c'est-à-dire à Lyon en 1539, une grève des compagnons imprimeurs, qui est vraiment une forme très nouvelle et surprenante de conflictualité, alors qui s'accompagne de, disons, d'émeutes, ou en tout cas d'une forme de conflictualité physique dans l'espace urbain, mais qui est quand même d'abord et avant tout marquée par l'idée de la cessation du travail. C'est-à-dire que les compagnons, dans le cadre d'un conflit avec les patrons des imprimeries, décident de cesser le travail pour faire avancer un certain nombre de revendications. Mais donc on le voit, de la noblesse aux catégories populaires, on a finalement tout un arsenal, tout un éventail de formes de contestation qui témoignent en fait de la très grande diversité de ces contestations.
Oui, je vous remercie. Vous avez déjà bien placé le cadre de ce que Charles Tilly appelait les révoltes du refus. Hein, donc des révoltes qui sont provoquées par la volonté de ne pas accepter une transformation dans la perception de l'impôt, telle ou telle condition modifiée du travail ou la cherté du grain. Donc ce sont des choses qu'on retrouve aussi, bien entendu, dans l'Antiquité. Mais dans l'Antiquité, on retrouve aussi des révoltes qui sont des révoltes qui peuvent être motivées par des contextes un peu plus politiques, c'est-à-dire des révoltes qui s'expriment aussi pour répondre à une décision politique qui mécontente la population. On pense par exemple à des proclamations impériales qui sont contestées, qui mettent le peuple de Rome dans la rue, ou au contraire des proclamations qui sont attendues et qui ne sont pas réalisées, au moment de la proclamation de Caligula, par exemple en 37, et le peuple vient soutenir le prince, alors avec, comme vous l'avez rappelé, cette question de qui finalement organise, qui est au cœur de ces révoltes. S'agit-il de mouvements véritablement spontanés, ou s'agit-il de mouvements qui peuvent avoir été organisés, planifiés ou éventuellement menés par des groupes particuliers? Monia O'Brien, pour l'ère britannique, je crois que vous aviez aussi un certain nombre de points à aborder sur un peu la typologie des révoltes qui vous ont intéressé, en particulier celle des années 80-90 en Angleterre.
Alors, en particulier, les émeutes urbaines qui ont eu lieu sur le territoire britannique, et en particulier sur le territoire anglais, voire gallois dans une certaine mesure, présentent un certain nombre de similitudes. Comme vous venez de le dire, en ce qui concerne les émeutes qui ont marqué les années 80, donc 1981 et 1985 en particulier, d'une part, mais aussi des émeutes plus récentes, en particulier celle de août 2011. Alors, ces émeutes qui sont qualifiées à la fois ou tantôt de urbaines certainement, mais socio-raciales, voire sociales, voire simplement raciales, présentent différentes formes. D'une part, ces révoltes sont qualifiées d'urbaines, comme le nom l'indique, parce que les révoltes ont eu lieu dans ce qu'on appelle les inner cities, donc des quartiers défavorisés, mais qui en général se situent à l'intérieur de grandes villes, voire en périphérie, mais non pas en banlieue comme on le comprend en civilisation française. Sociale parce que à un certain moment, et certains chercheurs, sociologues, voire politiciens, ont considéré que ces révoltes avaient une origine quelque peu sociale, mais ce point de vue n'est pas partagé par tous. Raciale, alors pourquoi des émeutes raciales? Parce que se sont distingués dans tous les cas de figure des protagonistes issus de minorités raciales, en tout cas de communautés minoritaires en particulier, mais bien sûr des émeutiers blancs ont participé à toutes les émeutes dont il est question dans les années 80 et en 2011. Alors, plusieurs similitudes sont à observer dans les émeutes qui ont eu lieu dans les années 80, mais aussi ces fameuses émeutes de 2011, à savoir dans un premier temps le harcèlement policier, parfois fatidique, comme point de départ de la révolte dans des zones urbaines délaissées, des policiers pris pour cible, des protagonistes jeunes, souvent issus de l'immigration, en majorité de jeunes hommes, et des incendies de bâtiments, un chaos général, des actes de pillage, en particulier en 2011. Autre point commun à toutes ces émeutes, le fait qu'elles ont été caractérisées, ou en tout cas définies par la classe politique, comme étant de simples actes criminels, et non pas des révoltes sociales. C'est pour ça que j'insistais au départ sur le fait que ces révoltes ont été tantôt qualifiées de sociales, de raciales, d'urbaines, mais pas toujours de sociales. Autre point commun, le fait que tous ces événements ont conduit à une répression de plus en plus accrue. Je pense en particulier aux émeutes de 2011 qui ont donné lieu à une véritable pornographie idéologique et à une répression excessive de délinquance qui parfois pouvait être simplement qualifiée de mineure. Si je puis donner un exemple, au lendemain de ces émeutes, un jeune homme inconnu des services de police, par exemple, a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir volé une bouteille d'eau, qui coûtait à peu près 1 euro, on va dire, dans un magasin Lidl. Au même moment où des membres de la classe politique avaient été exonérés pour trafic d'influence ou trafic de fonds publics.
Merci pour toute cette précision et puis toutes les pistes que vous avez aussi ouvertes sur la question notamment de l'appréciation que les élites politiques portent sur les mouvements sociaux dont ils sont parfois, mais pas uniquement, les cibles. Et aussi sur donc, la question de la répression qui peut frapper ces mouvements. Romain Delmas, est-ce que vous avez des points de convergence pour les périodes contemporaines avec ce que Mona O'Brien vient de rappeler, en particulier la question donc, des groupes qui, les plus défavorisés qui sont aussi peut-être les premiers à mener ces émeutes urbaines, aussi sur la question de la forme que prennent ces émeutes, la destruction.
Alors oui, bien évidemment, il y a des points de convergence. Après, pour ce qui concerne au moins le 19e siècle et une partie du 20e siècle, à défaut de typologie, il me semble qu'il y a dans la conflictualité qui se manifeste au moins 3 dimensions qui peuvent fonctionner indépendamment, même si elles s'articulent très bien ensemble, à savoir d'abord des conflits basés sur la question des subsistances, hein, ce que avec cette notion de reproduction des conditions matérielles d'existence qui est au cœur du conflit. Alors c'est lié bien évidemment au milieu du travail, comme l'a rappelé Florence tout à l'heure pour l'époque moderne. C'est également la question des taxes, et ça on retrouve tout à fait au 19e siècle, comme par exemple lors du mouvement des canuts en 1831 qui commence sur la question des tarifs. C'est une dimension qui, à mon sens, est une dimension économique. Les revendications sont économiques. On va demander une amélioration du salaire, comme ça va être le cas notamment lors des mouvements de grève de 1898-99, y compris à Tours. Ça va être des revendications pour meilleures conditions de travail. C'est extrêmement lié à l'économie. Cette dimension se supplée parfois d'une autre dimension du conflit au XIXe siècle, qui est un conflit plutôt systémique. où il s'agit plus exactement d'une manifestation d'une perte de la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire que non seulement il y a des problèmes économiques, mais la réponse des autorités n'est pas adéquate et ça pose le problème de sa légitimité. Et dans ces cas-là, les réponses qui sont attendues, c'est une redéfinition des rapports de domination, notamment dans l'espace public. On retrouve ça par exemple en janvier-février 1905 en Russie, où les travailleurs de Saint-Pétersbourg, en plus de demandes économiques, vont demander un certain nombre de droits, un certain nombre également une nouvelle capacité à exister dans l'espace représentatif politique. Donc c'est une dimension politique. Hein, c'est-à-dire qu'aux mesures économiques et aux demandes économiques se supplée aussi des revendications politiques. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans le mouvement boulangiste entre 1887 et 1889, hein, où il y a vraiment une perte totale de la légitimité de la République à ce moment-là, où on va vouloir redéfinir l'ensemble des rapports, et Boulanger va s'appuyer là-dessus énormément sur les classes populaires. À ces deux dimensions, il y a une troisième dimension qui intervient, alors peut-être plus à la fin du 19e siècle, même si c'est pas tout à fait vrai, c'est un conflit qui serait plutôt de l'ordre idéologique, avec derrière des foncteurs utopiques qui sont très présents, où là il ne s'agit plus non seulement d'avoir une reproduction des conditions d'existence, il ne s'agit même plus de redéfinir les rapports de domination au sein du système, c'est clairement la recherche d'un nouvel ordre social. Et ça, on le retrouve énormément à la fin du 19e siècle, notamment dans les mouvements anarchistes en Espagne. Bon, il y a aussi la Révolution sociale espagnole de 1936. Février 1917, par exemple, je ne parle pas d'octobre, hein, je parle de février 1917, où effectivement il y a derrière des mesures qui sont des mesures aussi sociales, non plus économiques et politiques, mais également sociales. Et il me semble que ces trois dimensions se retrouvent encore, même au XXe siècle, sur des mouvements comme par exemple on a pu voir avec Nuit debout ou le mouvement des places à Madrid en 2011, ou voire Occupy Wall Street, où on est sur une démarche à la base économique qui remet en question les rapports qu'il y a au sein du système et qui veulent aboutir sur une redéfinition totale du système. Un monde de nouveau, hein, dans mon souvenir, c'est un des mots, que ce soit d'Occupy Wall Street et de Nuit debout, c'est vraiment on veut un autre monde, quoi. Voilà, plus ou moins. Après, il me semble important peut-être de... indépendamment de ça, il y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est le travail de Thomson sur justement l'histoire de Grande-Bretagne. Alors après, peut-être que Mme Ryan pourra compléter. C'est la question de l'économie morale. Alors c'est plutôt pour l'époque moderne, mais cette idée qu'en définitive, il y a un certain nombre de règles, de normes qui vont de soi, qui ne sont pas nécessairement actées, écrites, mais qu'il n'est pas possible pour le pouvoir de transgresser. Et que parce qu'à un moment donné, ces normes qui ne sont pas établies, écrites, sont transgressées, ça donnerait le droit à la population de se révolter. Alors, Thomson parle en ce moment-là, donc on est au XVIIIe siècle en Angleterre, mais je sais que des historiens comme Samuel Hayat ont réutilisé ces notions pour le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, et donc ça serait quelque chose qui se serait perpétué, en définitive, dans le 19e, jusqu'au 19e, 20e siècle.
Je vous remercie. Monia O'Brien, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur Thomson. De mon point de vue, non, je remercie Romain pour avoir fait ces distinctions. En effet, bien rappelé les trois dimensions. Je crois que à peu près ces trois dimensions, la dimension, alors le refus d'une transformation économique qui serait délétère pour ceux qui la subissent, la délégitimation politique, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais on aura l'occasion de le faire dans les points suivants. Et la troisième, donc la volonté de transformer la société. Peut-être, alors pour les périodes antiques et médiévales, c'est peut-être cette troisième, hein, c'est-à-dire cette volonté de transformation sociale qui manque un peu parce que bien souvent les émeutes populaires manquent d'un substrat idéologique, d'une organisation qui soit motrice, en quelque sorte, pour amener une transformation sociale à long terme. Une seule exception, les émeutes à fondement religieux, où là, par exemple, on a des exemples fameux, à la fin du IVe siècle, émeutes plus ou moins spontanées de chrétiens pour débarrasser leur ville des temples païens, hein, Alexandrie 391 par exemple. Là, ça pourrait correspondre un petit peu à une volonté, alors pas véritablement utopique puisqu'elle est en acte cette fois-ci, mais une volonté de transformer globalement une société en ayant recours à la violence parce que précisément le pouvoir n'est pas suffisamment rapide dans l'accompagnement de ces transformations sociales. Donc là, je suis vraiment très heureux que vous ayez placer un peu tous ces points qui vont, je crois, beaucoup nous aider. Il y a néanmoins, je crois, un type d'émeute, et je voudrais ensuite clore ce premier point avec si les invités sont d'accord. Mais un premier type d'émeute qui nous a un peu échappé, c'est ce que Tilly et Hobsbawm aussi appelaient les émeutes prémodernes, les émeutes primitives, les affrontements de quartier, les affrontements entre groupes de supporters. Voilà. Alors peut-être que nous sommes plus sensibles modernistes et antiquisants, parce qu'elles rythment quand même l'histoire urbaine. Hein. On a un très bel exemple en 59 à Pompéi, qui est très bien documenté par les textes, les inscriptions, voire même des représentations figurées, où une émeute en fait a lieu dans l'amphithéâtre de Pompéi à l'occasion de jeux de gladiateurs, parce que dans l'amphithéâtre on trouve des populations de Pompéi et d'une ville voisine, Nucérie, lesquelles sont au même moment en conflit pour la délimitation de leur territoire. Et des insultes qui fusent dans l'amphithéâtre se transforme en fait en une véritable émeute dans la ville où les Nucériens sont chassés, frappés, abattus. Bon, il y a une sorte de mouvement, de grande colère contre eux à l'occasion d'un élément déclencheur. Là, je pense qu'on pourrait le retrouver pour les époques modernes. Hein, ces affrontements comme ça, dans la préparation de l'émission, j'ai fait appel à Rabelais et j'ai appelé ça les guerres pipes. Collines, mais on est un peu dans ce système-là. Est-ce que on retrouve cela aux époques de la première ou de la seconde modernité, Florence Salazar?
Oui, on retrouve ça. Alors le problème peut-être là, c'est, on va toucher aussi à des questions un peu d'ordre historiographique, c'est-à-dire que le problème c'est que beaucoup d'historiens à un moment donné ont été tentés de rechercher finalement les origines de, les racines de ce qui apparaît comme étant la contestation entre guillemets parfaite, c'est-à-dire celle qu'on connaît dans le monde contemporain. Et donc dès lors qu'on est dans la recherche de l'origine, des prémices, de quelque chose qui serait pas tout de suite immédiatement politique, mais un peu infrapolitique, on reviendra peut-être d'ailleurs sur ce terme plus tard, parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui et qui pose un certain nombre de questions. Et là, je pense qu'il y a eu aussi quand même un tournant ces dernières années pour, au contraire, justement, repolitiser finalement ce type d'émotion urbaine. Mais sinon, oui, on a que ça. Alors, peut-être qu'on pourra y revenir plus tard. Par exemple, la période moderne est réputée, si je puis dire, pour ces révoltes associées à des rumeurs. Je pense en particulier aux grandes émeutes parisiennes, mais aussi à Tours d'ailleurs, pendant l'été 1750, sur les enfants volés. C'est-à-dire qu'il y a une rumeur qui circule selon laquelle des policiers enlèvent des enfants avec tout un univers extrêmement étonnant de pouvoir, de sexe et de sang, hein, littéralement, puisque on pense que les enfants sont enlevés pour ensuite faire des bains de sang pour que le roi puisse se régénérer. Voilà. Et ça provoque littéralement des émeutes dirigées contre le pouvoir, accusées finalement d'organiser ces enlèvements d'enfants. Et on connaît la puissance de la rumeur, en fait, à l'époque moderne et médiévale, bien sûr, ça va de soi. Et donc la rumeur est porteuse de ce type de révolte. Donc oui, on a de nombreux exemples de ces révoltes donc suscitées par des éléments qui sont hors, disons, du champ qu'on pourrait appeler politique, social ou économique, et qui n'en sont pas moins dotés d'une puissance contestataire évidente, bien sûr.
Des précisions sur ce point.
Oui, et rebondir sur cette idée de rumeur. Je parlais tout à l'heure du fait que les émeutes dans les années 80, aussi bien que les émeutes plus récentes en 2011, sont parties d'un élément déclencheur impliquant en général un membre de la communauté, donc un membre d'une communauté minoritaire et défavorisée. Face à un membre des forces de l'ordre. Pour donner un exemple, je vais me concentrer sur les émeutes de 2011. Un jeune père de famille noir a été abattu par la police. Le procès a montré que la police était, ou en tout cas a conclu au fait que la police était en l'occurrence en état de légitime défense. Ce jeune homme était surveillé car on le soupçonnait de faire partie d'un gang et de s'adonner au trafic de drogue. La rumeur selon laquelle ce jeune homme avait été assassiné par la police a déclenché l'émeute. Pour prendre un autre exemple, concernant cette fois les émeutes de 2001, qui se sont concentrées en particulier sur le nord du pays, alors c'est un autre cas de figure dans la mesure où c'est une rumeur qui a déclenché les émeutes, mais la rumeur selon laquelle une jeune fille noire avait été violée par des Pakistanais. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ça remet en avant l'antagonisme qui existe entre les diverses minorités ethniques, diverses communautés qui cohabitent au Royaume-Uni, et en particulier l'antagonisme qui existe entre la communauté noire et la communauté asiatique. Alors, asiatique dans le sens britannique du terme. Ici, on fera référence donc aux populations d'origine indienne, bangladaise et pakistanaise. Ces communautés ne s'entendent pas, sont clairement opposées l'une à l'autre, parce que la communauté asiatique, en général, est considérée comme réussissant beaucoup mieux sur le plan de l'emploi. Elle est beaucoup plus appréciée par les autorités. Par exemple, la communauté indienne était donnée en exemple par Margaret Thatcher dans les années 80, parce qu'elle respecte l'autorité, elle donne beaucoup de valeur aux institutions, à l'école par exemple. Donc cet antagonisme qui a toujours été entretenu par le pouvoir a éclaté, ou en tout cas a donné lieu à des émeutes en 2005. Donc, à l'origine de ces émeutes, un autre type de rumeur, mais c'est aussi la rumeur qui a fait que des peuples se sont soulevés.
Je vous remercie d'avoir en fait, finalement offert une transition vers le deuxième point que nous voulions aborder ensemble, la question au fond de la naissance de ces émeutes. Peut-on parler d'émeutes spontanées ? Ou au contraire, existe-t-il des cas où l'émeute a été, alors pas forcément préméditée, mais en tout cas préparée, et quelle que soit la forme qu'elle prend dans ses premiers moments, dans la naissance du mouvement violent, peut-on identifier des groupes qui sont plus actifs que d'autres dans la contestation violente du pouvoir ou d'une situation qui est vue par la population comme difficilement acceptable. Romain Delmas, est-ce que vous pensez que pour le 19e et le 20e siècle, il y aurait plus d'émeutes en quelque sorte dirigées que d'émeutes spontanées ? Je pense par exemple au rôle des syndicats ou de groupes d'ouvriers particulièrement conscients sur le plan politique.
En fait, cette question de la préméditation ou de la spontanéité est quelque part une sorte de faux débat, puisque on trouvera par exemple que 1936, les grèves entre juin et août, n'étant pas le fait d'ouvriers, notamment CGTistes, et plutôt du privé, non pas du public, ne dépendant pas de volonté politique, il y a une forme de spontanéité qui intervient, que l'établissement des conseils ouvriers qu'il va y avoir en 1905 et 1917 en Russie sont relativement spontanés, que ce soit dans le Caucase ou ailleurs, que la République des conseils de Bavière en 1918 se crée autour d'une création spontanée de conseils dans toute la Bavière. Et à côté de ça, on pourrait également dire que globalement, les émeutes de 1891 en France, et notamment à Fourmies, c'est prémédité dans le sens où la création du 1er mai en 1889, à la demande de Jules Guesde, c'est quelque chose qui est organisé, que globalement, 1848, la Révolution, si on ne prend pas en considération tout l'épisode préparatif avec les banquets républicains, avec les clubs, que donc il y a quelque chose d'organisé derrière. Seulement, dans tous les cas, on trouvera un élément conjoncturel qui fait que de toute façon, il y a un événement qui va entraîner une réaction spontanée, mais il y a également la nécessité derrière, d'avoir des structures organisationnelles ou des personnes. Et dans la plupart des moments dits spontanés, on retrouve des militants aguerris, des personnes qui sont affiliées à un certain nombre de dispositifs ou d'associations. Prenez la commune de 1871, indépendamment du mouvement, qui naît de manière relativement spontanée en mars. Derrière, il y a énormément de personnes qui sont issues de l'Association internationale des travailleurs de 1868. Donc, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a le... Et c'est d'ailleurs tout le débat qu'il va y avoir au sein des penseurs, notamment marxistes de la fin du 19e siècle, et donc le fameux conflit entre Kautsky et Bernstein, savoir, en définitive, quel est le rôle politique des syndicats et du parti. Est-ce que c'est de créer l'étincelle, ou est-ce que c'est justement de fournir la structure derrière? Est-ce qu'on est révolutionnaire ou réformiste? Donc je pense que les deux sont de fait présents dans la plupart des cas.
Il serait peut-être bon, peut-être à ce moment-là, de distinguer justement la finalité de l'émeute. C'est-à-dire que l'émeute du refus, l'émeute à fondement économique, a plus de chances d'avoir été relativement spontanée dans son début, parce qu'il s'agit d'une réaction, en quelque sorte un peu parfois... des émotions épidermiques à une situation qui peut ensuite se structurer ou être menée par des groupes. Alors je pense par exemple à un élément dans le monde antique. Nous avons énormément d'attestations justement d'émeutes provoquées par un renchérissement du prix des denrées de première nécessité classique. Mmh. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, Romain, aussi pour le 19e siècle. Mais on sait que beaucoup d'émeutes en fait sont très largement ciblées sur des notables urbains qui sont accusés, alors souvent par leurs adversaires politiques, de pratiquer la spéculation ou d'utiliser leurs biens à autre chose que s'occuper de la collectivité. Et du coup, le caractère spontané finalement né de ce renchérissement du prix du pain, eh bien, ou du blé, en fait, tourne très rapidement à soit un affrontement politique, soit des règlements de compte à l'intérieur de la société, soit, comme vous l'avez aussi très bien rappelé, le fait que un certain nombre de structures à l'intérieur de la cité, d'associations, de groupes constitués, considèrent que, au fond, l'événement qui déclenche l'émeute, c'est une rupture dans un horizon d'attente, dans une sorte de consensus ou de fonctionnement urbain qui devrait être parfait et qui, justement, nécessite, puisque ce consensus est rompu, qu'il y ait action violente.
Oui, effectivement. Après, je me demande si ce qui est pas le ce qui derrière est le peut-être articule tout ça, ça serait la mise en place d'un imaginaire instituant collectif permettant de créer des affects qui derrière, et ça se voit au 19e siècle notamment avec l'apparition notamment dans le mouvement anarchiste, avec la chanson, avec un certain nombre de littératures topiques, etc., où va se créer réellement des éléments communs qui vont permettre à un moment donné de souder ces personnes autour d'un même objectif. Et Christine Ross l'a montré aussi hein, pour la commune de 1871, il y a pendant 20 ans, dans les cabarets, hein, Michel Perrault parle de bistrocratie au 19e siècle, il y a toute la création d'un imaginaire commun, d'affect commun qui permet à un moment donné de solidariser sur une problématique. Et c'est là où effectivement l'aspect conjoncturel et organisationnel se rejoignent, où les organisations vont permettre de créer cet affect par la publication, par les périodiques, par un certain nombre de choses. Et l'aspect conjoncturel permet de souder tout cela autour d'une problématique, effectivement.
Laurent Sarah-Lazare, pour la période moderne, alors le débat probablement est tout aussi... difficile à trancher entre spontanéité et préméditation, mais est-ce que vous constatez, vous, qu'il y a des groupes qui sont plus actifs que d'autres, ou vous voyez aussi des instrumentalisations éventuellement politiques de l'émeute?
Oui, alors, bien sûr, à l'époque moderne, et je rejoins tout à fait ce que disait Romain, c'est-à-dire qu'on voit comment les contestations mobilisent finalement ces deux formes d'entrée dans l'émeute ou dans la révolte, hein, à savoir à la fois une préparation, même si à l'époque moderne, la notion de militant aguerri fonctionne assez mal. À la fois préparation, mais la préparation, elle vient tout simplement de l'expérience, c'est-à-dire que des gens qui ont expérimenté déjà l'émeute ou la révolte. révolte et ça sert à quelque chose d'expérience. Et puis donc aussi cette éruption, disons, spontanée. L'autre point aussi, peut-être, qui montre qu'effectivement cette question-là, elle est compliquée à régler, c'est que c'est aussi l'intérêt des pouvoirs que de focaliser sur cet antagonisme entre éruption et préparation, parce que les pouvoirs sont à la recherche des responsables et des comploteurs. Dès qu'il y a une contestation, il y a l'idée qu'il y a du complot. Et donc, il faut pouvoir identifier finalement ceux qui sont à l'origine de ce complot pour l'avoir pensé auparavant. Il y a un épisode, moi, qui me semble assez témoigner justement de cette imbrication de ces deux types d'entrées dans l'émeute. C'est ce qu'on appelle la fameuse journée des barricades, puisqu'il est dit que c'est la première fois qu'à Paris, on aurait utilisé les barricades. Là aussi, ça demanderait sans doute une vérification. Journée des barricades, donc 12 mai 1588, on est en plein pendant les guerres de religion, donc là aussi, ça rejoint aussi la spécificité de certaines émeutes qui étaient signalées tout à l'heure. Et on a à la fois une émeute populaire associée, disons, à des troubles qui sont récurrents depuis plusieurs dizaines d'années, véritablement spontanée, et un travail en fait qui a été très largement préparé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, par ce qu'on a appelé le Conseil des 16, qui était en fait un conseil des quartiers, disons, de Paris, tenu par la Ligue, par les bourgeois ligueurs, donc catholiques intransigeants, et en soutien des Guises, les Guises qui étaient les grands contestataires. Là aussi, on retrouve cet ethos contestataire de la noblesse que j'évoquais tout à l'heure, et donc qui ont largement préparé cette éruption, et qui va aller très très loin, on y reviendra peut-être plus tard, mais donc qui est un élément qui témoigne bien justement de cette association entre préparation et spontanéité, disons, de l'émeute. Et ça, je pense qu'on peut en trouver encore des tas d'autres exemples, y compris en dehors de la France. Je pense par exemple à la guerre des paysans dans le Saint-Empire romain germanique en 1525. Là, on a tout, le social, l'économique, le religieux, et voilà, des éléments qui témoignent de cette imbrication, en fait, des phénomènes.
Alors, puisqu'il nous faut avancer un petit peu dans cette discussion, le tour d'horizon, je propose finalement de nous intéresser maintenant, après avoir vu les différentes formes de l'émeute, tout ce qui pouvait la motiver, tenter vaguement, selon les périodes, d'offrir un début de typologie, nous être intéressés aussi à donc une question qui est finalement repose beaucoup aussi sur des débats historiographiques autant que des débats sur l'analyse même des sources. De nous intéresser au fond aux conséquences de ces émeutes, ces émeutes urbaines. Pour les périodes et les aires qui nous intéressent, ont-elles pu avoir un effet majeur sur le pouvoir, l'amenant à revoir ses choix, voire carrément le poussant à, quitter ses fonctions d'autorité? Un exemple fameux dans la transition entre Antiquité et Moyen-Âge, pour la partie orientale de l'Empire romain, c'est la fameuse sédition Nica de 532, qui au départ commence par des rixes entre groupes organisés de supporters de factions du cirque, lesquels rixes aboutissent à des condamnations qui sont contestées par les factions elles-mêmes, par ces groupes de supporters, et condamnations qui débouchent donc plusieurs jours, une semaine entière en fait, d'émeutes à Constantinople, avec un pouvoir qui, finalement, ne maîtrisant plus la situation, se voit délégitimé et menacé d'être remplacé jusqu'à ce qu'il trouve finalement suffisamment de force dans l'armée qui est restée fidèle pour écraser dans le sang cette tentative de renversement du pouvoir impérial qui, au départ, était née donc justement d'une émeute ce que on pourrait placer dans un contexte donc que Romain Delmas appelait les émeutes de rupture d'un consensus supposé être accepté à la fois par le pouvoir et par les groupes sur lesquels il exerce son autorité. Monia O'Brien, est-ce que dans les émeutes que vous avez pu étudier dans les années 80 et jusqu'aux début des années 2000 et de la décennie 2010 en Grande-Bretagne, le pouvoir a vacillé ou au contraire il ne s'est jamais remis en question ou au contraire il a pu utiliser ces émeutes pour conforter un peu plus les choix idéologiques qui étaient les siens.
Alors en effet, ça a été le cas aussi bien dans les années 80 que en 2011. Après les émeutes de 1980, donc les années 80, donc les émeutes de 1980 et les émeutes de 1985, le gouvernement Thatcher a décidé de insister sur l'aspect sécuritaire en particulier, et donc de condamner fortement ces émeutes, qui pour elle étaient clairement de la criminalité pure et dure. Et c'est exactement les propos que reprendra David Cameron en 2011. Alors, répression d'une part, et puis nettoyage social déguisé d'autre part, puisque, étant donné que les émeutiers, ça a été reconnu par le rapport Scorman, par exemple, qui est paru en 1982, un rapport qui faisait état finalement d'enquête sur les émeutes de 1981, et qui avait conclu au fait que les émeutiers avaient quand même des revendications sociales qui s'appuyaient sur des faits. Par exemple, les émeutiers se plaignaient des conditions de vie déplorables qui étaient les leurs, conditions de logement, chômage, discrimination, harcèlement policier, etc. Le gouvernement Thatcher, par la suite, a mis en place la rénovation des quartiers défavorisés. Ce qui a conduit malheureusement non pas à une rénovation à l'endroit des populations qui s'étaient soulevées, mais à un embourgeoisement des quartiers dits alors déshérités, et par conséquent à un nettoyage social, comme je le disais, déguisé, puisque les nouveaux logements construits, les nouveaux emplois amenés dans les quartiers défavorisés n'étaient pas destinés aux populations défavorisées. Après 2011, alors ce n'est pas la rénovation urbaine qui a été mise à l'ordre du jour, mais plutôt une répression sans limite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le fait que Cameron a insisté sur la responsabilité des gangs qui auraient organisé les émeutes et auraient incité les habitants des quartiers défavorisés à y participer. Les gangs sont devenus instrumentalisés par le gouvernement de coalition. Par conséquent, le gouvernement de coalition a pu imposer son idéologie, a pu imposer The Big Society, donc le programme idéologique sur lequel il avait été élu, grâce aux émeutes. Les gangs menaçaient la nation dans son entier, par conséquent, il fallait réagir. Tout cet aspect ultra-sécuritaire n'est pas apparu simplement après les émeutes. Ça faisait partie aussi du plan de la coalition. Cependant, la coalition a eu l'occasion rêvée pour prouver que le programme qu'elle proposait était le programme qui s'imposait. Donc les résultats n'ont pas été bénéfiques, en tout cas pour les individus qui avaient des doléances à proposer à l'État. Au contraire, ils ont pâti de la situation et, pour résumer la chose, les retombées des émeutes n'ont pas été en leur faveur du tout.
Oui, donc on aboutit en fait au paradoxe que l'émeute née d'un refus d'une situation, en réalité, aboutit à un durcissement des conditions qui avaient présidé à sa naissance. Florence Salazar, vous parliez justement de la journée des barricades. Alors, c'est l'une de ces grandes émeutes qui a fait trembler l'autorité monarchique en France au XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, et de fait, alors elles arrivent à un moment où Henri III est extrêmement contesté par les guerres de religion qui sévissent déjà dans le royaume depuis plusieurs dizaines d'années. Et on sait que pendant la journée elle-même, les les Parisiens, en fait, appelaient le duc de Guise en l'appelant le roi de Paris. Hein, donc, avec cette idée qu'il fallait finalement, même si ça restait dans un premier temps à l'échelle strictement parisienne, mais c'était effectivement une sorte de renversement qui était en cause. Et de fait, c'est à la suite de cette journée que Henri III se trouve contraint de quitter Paris parce que sa sécurité n'est pas assurée et parce que voilà, Paris est littéralement en révolte. Donc, il quitte la ville de Paris. Il va pendant un certain temps d'ailleurs errer, si je puis dire, avec évidemment sa cour, etc., un peu dans les alentours de la région parisienne, et il finira par arriver à Tours. Et c'est justement à Tours ensuite que la cour et la royauté vont s'installer pendant quelques temps, ce qui va faire de Tours de nouveau une ville royale à ce moment-là. Mais de fait, la royauté tremble et se trouve contestée au point qu'il est envisageable finalement qu'un nouveau roi soit proposé à la place d'Henri III et un certain nombre de grands se retrouvent justement pour discuter de cette éventualité. Alors finalement, l'histoire ne s'achève pas là, on le sait bien, et Henri III va réussir à reprendre la main. C'est vrai que c'est peut-être un des rares moments où on voit à ce point le pouvoir vaciller à l'occasion d'une contestation, qu'elle soit émeute, révolte ou autre type de conflictualité, parce que ce à quoi on est davantage habitué à la période moderne, c'est plutôt les révoltes antifiscales que j'évoquais tout à l'heure et qui se font au cri de « vive le roi sans la maltote », la maltote étant l'impôt, donc des émeutes extrêmement légitimistes et qui se concentrent uniquement sur les abus, mais certainement pas sur la remise en cause du système lui-même. Je voudrais quand même signaler ce qui me semble être un débouché d'une émeute assez importante, et surtout le débouché important parce que finalement on le voit encore aujourd'hui par la puissance de ce texte, c'est que quand même il y a un grand texte qui a été écrit après une révolte qui est la révolte des Pitots en 1548 dans la région de Bordeaux, et avec Bordeaux comme épicentre. C'est évidemment le discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui reste un des... Voilà, c'est même maintenant un grand texte de l'histoire de l'anarchisme même et qu'on peut lire très facilement et qu'il faut absolument lire. Et qui est un texte qui, finalement, lui, va jusqu'à, effectivement, s'interroger sur ce qu'aujourd'hui on appellerait le consentement, c'est-à-dire comment se fait-il qu'un petit groupe de personnes puisse obtenir l'assentiment et la soumission d'un nombre plus grand de personnes. On retrouve d'ailleurs les fameux 99%, tout à l'heure on évoquait Occupy Wall Street, etc., et tout le mouvement des places, ça reposait précisément là-dessus, sur une lecture finalement de la Boétie. Donc la contestation, et le pouvoir ne vacille que très peu à l'époque moderne. Bien sûr, je mets à part la Révolution française, il faudra faire une émission, je pense, sur la Révolution française. Il ne vacille que très peu, mais il y a des éléments qui restent et qui parviennent jusqu'à nous et qui témoignent de la capacité, la puissance de ces contestations.
Alors, Romain Delmas, évidemment, pour les périodes contemporaines, là, le nombre d'émeutes urbaines ayant débouché sur des contestations fortes et des renversements du pouvoir, là, on y passerait plusieurs heures, mais précisément, alors, ma question pour vous, ce serait plutôt, est-ce qu'il y a des émeutes qui sont des volontés de dialoguer avec le pouvoir, ou plutôt de se manifester auprès de lui, de lui imposer des thématiques qu'il a peut-être un peu délaissées, ou tout simplement des émeutes qui seraient des émeutes de cohésion d'un groupe qui chercherait à se souder plus qu'à véritablement, bref, des émeutes qui n'auraient pas pour première intention finalement un renversement complet, mais qui voudraient plutôt donner sens à des demandes, donner signe à un groupe particulier, plutôt que justement à évoquer, comme vous l'avez déjà très bien dit, 1917, 1948, où là le pouvoir s'est effondré.
Excellente question. Là-dessus, on pourrait penser par exemple que ce qui s'est produit en Hongrie en 1956 ou en Tchécoslovaquie en 1968 sont des volontés de dialogue, c'est-à-dire un mouvement populaire massif sur une redéfinition du rapport, mais dans un esprit de dialogue. Hein. Un des slogans de 1968 en Tchécoslovaquie reste le socialisme à visage humain, c'est-à-dire le socialisme quand même. C'est-à-dire que mine de rien, on est dans une volonté de dialogue, malgré un certain nombre d'occupations publiques et de manifestations, même parfois violentes. Enfin, il me semble quand même qu'en règle générale, la plupart des émeutes ne sont pas forcément, enfin, ne sont pas dans un esprit de dialogue à proprement parler, plutôt dans la volonté de marquer les esprits, comme par exemple les mouvements Black Bloc, où par exemple actuellement on n'est pas dans une volonté de dialogue. On va créer ce qu'ils appellent les zones autonomes temporaires, où là, effectivement, on n'essaye pas de dialoguer, mais plutôt de se décaler de ce qui se produit. Je pense plutôt que je me demande même si le principe même de l'émeute n'est pas justement une forme de refus de dialogue quelque part, dans la volonté d'imposer quelque chose.
Bah justement, ça nous fait une excellente transition avec le dernier point, parce que malheureusement nous arrivons au terme de cette émission qui, j'espère, a ouvert de multiples pistes pour les auditeurs et les auditrices. Dernier point que je souhaitais aborder ici avec les participants à cette discussion, finalement, l'historiographie de ces conflits, au fond, est-ce que l'historien contemporain portant un regard sur les émeutes des époques de l'Antiquité à la seconde modernité ou au 19e ou 20e siècle est complètement objectif dans sa représentation? Et nous-mêmes, finalement, quand nous travaillons sur l'émeute, n'avons-nous pas tendance à, en tout cas pour les périodes les plus anciennes, je parle pour ma chapelle, à vouloir dépolitiser ces mouvements et à rebondir justement sur ce que Romain avait dit en dernier point, à vouloir considérer que l'émeute, c'est la fin du politique. Alors qu'il me semble que dans bien des cas, en particulier pour l'Antiquité, les grandes périodes d'émeutes urbaines, si on prend la fin de la République romaine, par exemple, avec la remise en cause à Rome du pouvoir central, ou la fin de l'Antiquité avec la multiplication de micro-révoltes locales, mais assez fréquentes, assez récurrentes. Et il me semble que si l'on considère ces deux grands moments, on a plutôt l'impression qu'en fait, elles montrent, je dirais presque un trop-plein de politique, une autre façon d'exprimer le politique. Elles montrent en fait souvent une population qui est consciente d'elle-même, de ses droits, de ce que l'attitude des élites doit être à son égard. Donc une population très sourcilleuse sur à ne pas subir d'humiliation, et au fond donc qui utilise l'émeute pour exprimer des demandes, qui ne trouvent pas des canaux normaux pour s'exprimer, ou en tout cas pas sous une forme, et qui aussi sont le fait de groupes très fortement structurés, auxquels la collectivité reconnaît de façon normale le droit de porter des revendications, et qui, dans l'émeute, sont moteurs parce que, précisément, ils s'arrogent ce droit de poursuivre cette fonction de porte-parole de la communauté, mais devant un pouvoir un peu, pouvoir local ou pouvoir central qui ne les entend pas, de façon plus violente. Donc ça, c'est un vrai débat, en tout cas pour l'Antiquité, un vrai débat sur le caractère politique ou non de l'émeute, avec souvent des oppositions assez tranchées entre historiographie continentale, allemande souvent, qui voit dans l'émeute en fait la faillite d'un système politique, la rigidité d'un système politique, et puis une sorte d'émotion mal contrôlée, et puis des écoles anglo-saxonnes qui sont plus attentives à leur restituer une dimension politique. Florence Alazard, est-ce que vous avez cette même dichotomie dans la représentation qu'on peut donner de l'émeute au XVIe, XVIIe siècle dans l'historiographie contemporaine, par exemple?
Oui, bien sûr. Même un historien qui évoquait les émeutes de cherté ou les émeutes de subsistance comme étant des émeutes biologiques, et qui expliquait d'ailleurs la part des femmes dans ces émeutes-là par la place de la femme dans la famille, la femme qui apporte le pain à la famille et qui donc se trouvait une acteur ou actrice importante de l'histoire des émeutes parce que biologiquement, d'une certaine manière, elle était au cœur du système. Donc, bien sûr, il y a cette question-là, en fait, qui est une forme d'une sorte de légitimation par la politique, disons, de l'émeute. Moi, ce qui me semble aussi intéressant, c'est de voir comment, puisque, alors là, c'est une grande question à 5 minutes de la clôture de l'émission, ça va être difficile, mais sur la question, en fait, de l'historien qui travaille sur les émeutes du passé, mais qui est aussi spectateur, ou en tout cas qui est contemporain de contestations sociales, et la question finalement de la façon dont l'historien regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On l'a vu l'hiver dernier avec les Gilets jaunes, hein, et des interventions historiennes qui étaient parfois là aussi contradictoires. Hein. Il y a eu, pas vraiment un débat d'ailleurs, mais en tout cas une opposition entre deux grands historiens sur la façon dont les historiens devaient se saisir et en tout cas regarder ces émeutes-là, la question de la comparaison. Après, on a eu énormément d'interventions d'historiens dans la presse qui toujours ramenaient finalement l'émeute ancienne. Donc, est-ce que c'est une jacquerie? Est-ce que c'est une révolte antifiscale? Toujours en train de s'interroger en fait sur la nécessité finalement de ramener à quelque chose de connu en fait. Et ça, c'est en fait, je pense, une angoisse face à la nouveauté. Ramener donc à ce qui est connu, et moi, mon inquiétude, c'est plutôt sur le fait que l'historien se verrait un peu comme une sorte de celui qui va donner un brevet de vraie révolte politique à ce qu'il observe aujourd'hui ou pas. Et ça, je pense que voilà, ça nécessiterait des discussions en tout cas.
Alors justement, nous en parlions avec Monia O'Brien avant l'émission, mais alors elle nous rappelait que pour le monde britannique, en revanche, les historiens ne se sont pas du tout emparés d'un début de réflexion sur les émeutes récentes.
Pas réellement, non. Ce sont plutôt les sociologues, les criminologues, les psychologues également, qui ont commis des travaux sur la question. Par contre, vraiment au lendemain des émeutes, un historien de grande renommée, David Starkey, qui a aussi des émissions de radio et de télévision, a déclaré donc, publiquement, pour résumer donc, la portée de ces émeutes, que les Blancs étaient devenus noirs. Ce qui résume vraiment plusieurs décennies d'émeutes et de rébellions, à savoir les émeutes sont considérées en Grande-Bretagne comme le mouvement d'individus appartenant à une culture qui n'est pas une culture britannique, donc une culture défaillante, une culture malade, et là je cite David Cameron, je cite aussi Douglas Hurt dans les années 80, donc il faisait partie du gouvernement de Thatcher. Ce que David Starkey, historien, a voulu mettre en exergue, c'est finalement ce que considéraient les divers gouvernements au pouvoir, et en particulier donc la coalition, à savoir que c'est la population noire qui a infecté la population blanche et qui, depuis toujours, mène les jeunes générations à l'émeute et donc à une contestation qui n'a pas lieu d'être. Et donc, contestation que lui considéré être de la criminalité pure et dure, simplement.
Oui, donc en quelque sorte, il y aurait eu une contamination de la réflexion, en tout cas pour les historiens, une contamination par le discours du pouvoir et une acceptation en quelque sorte des schémas explicatifs qui avaient été donnés de façon commune. Romain Delmas, quelques mots pour finalement conclure, tâche difficile. Est-ce que l'étude des révoltes du passé et les historiens qui s'y consacrent vous semblent donc les uns et les autres, les unes et les autres, pouvoir finalement mieux nous aider à comprendre les révoltes dont nous sommes les spectateurs, ou parfois pour certains d'entre nous, les acteurs, en tout cas en périphérie, disons
Eh ben, puisqu'il s'agit de conclure pour ce qui me concerne, dans ces cas-là, je vais essayer de récupérer ce qu'a pu dire Marx, par exemple sur la philosophie, où les philosophes qui n'avaient fait qu'interpréter le monde, il s'agissait de le transformer. Je pense que c'est aussi un peu pareil avec les historiens. C'est à un moment donné, entre Noiriel, Boucheron et compagnie, à un moment donné, il s'agit peut-être d'arrêter d'essayer d'observer, puisque de toute manière, étant le produit du système social dans lequel on est, on a une vision qui ne sera pas objective. En tout cas, à un moment donné, il sera peut-être temps d'agir plus que d'observer.
Vous avez parfaitement raison. Enfin, en même temps, Noiriel, bon, il agit aussi à sa mesure, hein, c'est-à-dire à sa mesure de directeur d'études à l'UHESS. Je veux dire, Marx aussi reconnaissait qu'au fond, tout le monde pouvait avoir sa place dans la Révolution, hein, même sans forcément prendre une arme. Il y avait différents moyens de participer à la transformation du monde selon ses compétences. Je vous remercie Romain Delmas, Florence Alazard, Monia O'Brien Castro pour leur participation, pour avoir accepté d'animer, comme toujours, j'espère, chers auditeurs et chères auditrices, un débat très riche qui appellera probablement d'autres discussions. Je vous rappelle que donc l'émission sera disponible en podcast et sera accompagnée d'une petite bibliographie réalisée par tous les participants. Juste avant le lancement du générique, je voudrais remercier Sébastien Dubois, qui depuis deux émissions est à la régie technique. Je ne l'avais pas fait la fois précédente, et donc un grand merci à lui pour son travail.